France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle année que je vous souhaite heureuse et toujours riche de lectures sur la musique, bien sûr. Et pour bien commencer cette année 2021, je vous propose de visiter un duo fameux du XVIIe siècle, Molière et Lully. L'association de ces deux noms évoque immanquablement le bourgeois gentilhomme qui met d'ailleurs un terme à leur collaboration. Mais je vous propose de découvrir une autre comédie-ballet composée en cette même année 1670, bien moins connue et quasiment jamais jouée, Les Amants Magnifiques. Pour cela, nous allons profiter des lumières de Laura Nodex, qui vient de coordonner un livre remarquable consacré à cette pièce de Lully et Molière. Molière à la cour, Les Amants Magnifiques en 1670, sous la direction de Laura Nodex, aux Presses universitaires de Rennes. Les musiciens du Louvre, dirigés par Marc Minkowski, c'était l'ouverture des Amants Magnifiques de Jean-Baptiste Lully. Bonjour Laura Nodex.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en études théâtrales à l'université Rennes 2 et vous avez donc coordonné cet ouvrage consacré aux Amants Magnifiques de Molière et Lully. Comédie mêlée de musique et d'entrée de ballet représentée à Saint-Germain-en-Laye sous le titre de Divertissement Royal. 4 février 1670. Alors, je l'ai dit, 1670, Bourgeois Gentilhomme, c'est la fin de la collaboration entre Lully et Molière. Ils ont auparavant, pendant une dizaine d'années, travaillé ensemble à partir des Fâcheurs, 1661. Comédie, ballet, comment est-ce qu'il faut entendre ça ? Comment est-ce que vous définiriez ça en quelques mots pour nous, les éditeurs de France Musique?
Alors, est-ce que je peux rectifier une petite erreur?
Oui, ah, ça commence bien. Dites-moi.
Ce n'est pas l'avant-dernière collaboration de Molière et Lully, puisque la dernière collaboration de ces deux artistes, c'est Psyché en 1671.
Oui, mais là,
En janvier 1671. Et ici, c'est intéressant parce que c'est un peu le même profil de divertissement que Les Amants Magnifiques, en fait.
Oui.
Psyché, Les Amants Magnifiques, ce sont des œuvres qui sont effectivement intitulées comédies. Mais qui ne ressemble pas en effet aux autres comédies-ballets, et en particulier si on pense à la comédie-ballet par excellence qui est Les Bourgeois Gentilshommes,
voilà.
Et que sera encore Le Malade Imaginaire. Ici, on a plutôt une œuvre qui est c'est une comédie, mais c'est une comédie avec des personnages romanesques, des princes, puisque l'un des titres de travail, c'était Les Princes Magnifiques. Et c'est une histoire donc de princes, de princesses, d'amour romanesque qui finit sur une chasse au cours de laquelle l'une des protagonistes manque de périr. Donc il y a une dimension un peu plus sérieuse. Mais effectivement, du point de vue de la forme, on est face à des pièces mêlées, c'est-à-dire une pièce de théâtre entièrement parlée qui est à certains moments interrompue par une séquence de musique, de chant et de danse et qui est signalée comme telle par les personnages. C'est en particulier le cas dans Les Amants Magnifiques où en fait tous les intermèdes de musique, de chant et de danse sont délimités dans la pièce comme étant des divertissements offerts par les personnages des princes, les amants magnifiques, à la princesse qu'il souhaite circonvenir. Et donc, pour lui faire plaisir, il lui offre des régales de musique et de danse. Et c'est un peu la structure qu'on va retrouver qu'on avait déjà dans Les Fâcheux et qu'on va ensuite retrouver sous divers arrangements jusqu'à Psyché et la dernière collaboration et jusqu'au Malade Imaginaire. Et jusqu'à d'autres pièces ensuite qui seront jouées dans les années 1670.
Mais Laura Nodex, ces intermèdes arrivent en général à la fin de chacun des cinq actes, c'est ça ?
Oui, alors en l'occurrence, effectivement, ils servent d'entracte, on pourrait dire, mais ils constituent, j'ai envie de dire, la trame principale finalement du spectacle. C'est-à-dire que ça, c'est une des grandes questions qu'on se pose encore même aujourd'hui, savoir qu'est-ce qui est le plus important, est-ce que c'est la pièce ou est-ce que ce sont les intermèdes. Nous, aujourd'hui, on a tendance à penser que les intermèdes sont moins importants que la pièce. Ça se discute, en réalité, puisqu'on pourrait dire aussi que la pièce, les actes de la pièce arrivent à la fin de chaque intermède. Donc on a, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer avec Psyché, justement. Où Psyché, c'est vraiment à chaque acte, on a au début un intermède et ensuite on a l'acte.
Et Laura Nodex, dans la pièce Les Amants Magnifiques, il y a donc deux princes rivaux grecs qui courtisent la princesse Eriphyle et qui lui préfèrent Sostrate, un général de moindre rang, mais dont elle est éprise. Est-ce que ces intermèdes ont un rapport de près ou de loin avec cette pièce de théâtre ou c'est du pur divertissement ?
Alors, en l'occurrence, ce sont vraiment des divertissements, c'est-à-dire qu'ils sont offerts pour plaire et on pourrait dire qu'ils vont... C'est comme si les princes offraient des beaux objets, des beaux bijoux, À l'époque, on adorait s'offrir, le roi offrait à Henriette d'Angleterre des éventails, des tabatières couvertes de diamants. Enfin, voilà, c'est un peu de cet ordre-là. Il y a vraiment une esthétique du cadeau magnifique. Et donc, le cadeau n'a pas nécessairement une valeur narrative. En revanche, il va avoir une valeur, on va sans doute y revenir, allégorique du point de vue d'un discours politique. Donc ça, c'est au début et à la fin. Mais au cœur de la pièce, quand l'un des princes offre à sa princesse, à celle qu'il aimerait bien être sa princesse, une pastorale, eh bien, cette petite pastorale, elle parle d'amour. Donc on peut dire aussi bien que la princesse doit lire... dans les paroles des personnages des invitations à l'amour qui lui sont adressées.
Les grandes blessures avec tout rose à part. cherche pour moi l'éclos de fête.
Agnès Mellon interprétait La Nymphe de Tempé, les musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski. Un extrait du prologue des Amants magnifiques de Lully et Molière. Laura Nodex, alors on a bien compris, il y a une pièce de théâtre et puis il y a des intermèdes. Qui participe à ce genre de spectacle? Est-ce que ce sont des musiciens professionnels, ceux de la Chapelle Royale ou de la Chambre? Est-ce qu'il y a aussi la cour qui participe? On sait très bien que Louis XIV et ses proches aimaient se produire, aimaient se voir. On sait que tous ces spectacles, c'est une sorte de représentation de la cour qui aimait se voir comme dans un miroir. Comment est-ce qu'il faut entendre ce spectacle des Amants magnifiques?
Alors, Les Amants magnifiques, c'est intéressant parce que il est connu dans l'histoire du théâtre musical en France parce que c'est le dernier, c'est ce qu'on a souvent on l'appelle souvent le dernier ballet de cour en fait. Mm-hmm. Parce que en effet, c'est un spectacle. Donc c'est un spectacle qui a été donné au moment du carnaval. Donc c'est pour ça qu'il est donné en février, donc au début de l'année, et c'est pour ça que le Bourgeois Gentilhomme sera donné pour la Saint-Hubert, c'est-à-dire une fête plutôt liée à la chasse. C'est un divertissement où en effet les grands vont participer, mais de manière extrêmement limitée. C'est un ballet où, contrairement même au ballet de l'année précédente qui a été donné au moment du carnaval, le ballet de Flore, on a très peu de membres de la cour qui prennent part au divertissement.
Pour quelle raison?
Alors, l'une des hypothèses, c'est que c'est un ballet qui... Alors, il participe à un mouvement, en fait, de professionnalisation du divertissement de cour. Et donc, il faut savoir surtout que cette participation des membres de la cour, elle est exclusivement dans la danse. Il n'y a aucun courtisan, aucun grand ne chante ou ne joue la comédie. Ça, c'est très, très important. Ou ne joue...
De la musique.
De la musique. Mmh. Donc, les musiciens, pour répondre à votre question, les musiciens ont toujours été des musiciens professionnels. Les musiciens, les chanteurs. Donc là, effectivement, on va faire appel aux effectifs de la musique de la Chambre et de la Chapelle Royale. Énormément de musiciens sont convoqués. Hein. On a beaucoup, beaucoup d'interprètes. On n'a pas le nombre exact, malheureusement, mais on sait que c'est un effectif très, très nombreux. On a beaucoup de chanteurs. On a un chœur important. Et en revanche, donc, la nouveauté, c'est que alors, les comédiens, bien sûr, sont professionnels, mais la danse, effectivement, on n'a que trois grands qui prennent part à la danse, et censément le roi. Et tendance à la professionnalisation, c'est-à-dire que la danse devient de plus en plus difficile, donc on va faire appel aux plus grands danseurs. Et on a aussi une remarque à l'intérieur de la pièce sur le fait qu'on fait appel à des vrais danseurs professionnels, donc il y a vraiment une mise en valeur de cette dimension-là. Et puis aussi, c'est un ballet donc, qui est connu dans l'histoire parce que c'est un ballet auquel le roi aurait dû prendre part et il n'a pas pris part.
Du tout ?
Du tout. Justement, on a un flottement. C'est-à-dire que dans le livret, il est marqué.
Oui.
Donc les gazettes disent le roi a dansé, voilà. Et puis en fait, on sait, ça c'est connu depuis les travaux de Jérôme de Lagorce qui a publié des relations d'ambassadeurs qui disent non, le roi n'a pas dansé.
Les ambassadeurs italiens, je crois.
Voilà, mmh. Les ambassadeurs qui étaient les premiers spectateurs de ce genre de spectacle de magnificence disent le roi ne danse pas.
Donc finalement, ce n'est pas le dernier spectacle auquel Louis XIV a participé alors.
Ben, c'est... Oui, voilà, c'est le dernier spectacle auquel il aurait dû participer.
C'est ça,
ouais. Participer. Et après, il ne dansera plus jamais. Et là, cette fois-ci, de manière prévue, si je puis dire.
Mmh. Alors donc, Laura Nodex, cette représentation, on l'imagine quand même fastueuse. Il y avait le décorateur Carlovi Garani qui était convoqué. On imagine des musiciens et des danseurs professionnels, vous l'avez dit. Donc, un spectacle certainement très coûteux. Est-ce que ça explique le fait que, finalement, la fortune de cette œuvre est assez... comparée à d'autres, n'a pas eu la fortune de, je sais pas, du Bourgeois Gentilhomme ou d'autres pièces? Ou est-ce qu'on sait pourquoi?
Ah là, non, on n'a pas d'explication précise. On peut interpréter, effectivement, des données qui sont des données symboliques, des données matérielles, des données thématiques. Alors, déjà, il faut savoir que Les Amants Magnifiques, c'est l'un des spectacles sans doute les plus chers qui a été commandé par le roi. On n'a pas exactement le total des dépenses, puisqu'en fait, on n'a pas toutes les factures, si je puis dire. On a les factures d'une reprise, puisque c'est une pièce qui a une destinée un peu contrariée. Voilà, on s'amuse à calculer, on additionne tout ça et on obtient des milliers, des centaines de milliers de livres, ce qui font des sommes absolument colossales. Mmh. Effectivement, la particularité de cette pièce, c'est qu'elle a été jouée elle a été créée à Saint-Germain-en-Laye. Et le roi avait fait aménager la salle de comédie de Saint-Germain à grands frais. Donc là aussi, on a quelques factures. En commandant cet aménagement à Carlo Vigarani, qui était donc le grand chef décorateur et machiniste du roi, qui venait de la cour de Modène. Donc on a beaucoup d'informations sur lui, parce que c'est très prestigieux d'avoir ce machiniste. On pense que, effectivement, et en plus, la machine est thématisée dans la pièce, c'est-à-dire qu'il y a un trucage, etc. Bon. On pense que, à l'instar d'autres divertissements de cours, par exemple la Princesse des Lides, Molière a été coincé en quelque sorte matériellement, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas reprendre un spectacle de cette ampleur, de cette magnificence dans son propre théâtre. Et justement, il le fera pour Psyché, c'est-à-dire qu'il va réaménager tout son théâtre pour pouvoir accueillir Psyché. Donc première hypothèse, effectivement, la pièce n'a pas été reprise par Molière parce qu'elle était trop chère. Deuxième hypothèse, le sujet était peut-être un peu différent des sujets qui plaisaient sur son théâtre habituellement. C'est-à-dire qu'on a une pièce tout à fait galante, presque une comédie héroïque, hein, puisque les personnages parlent d'amour de manière triste. Hein, c'est ce que Claude Bourqui rapproche de Bérénice, qui a été créée la même année, de Racine. Donc on a une pièce qui ressemble pas beaucoup aux pièces que Molière écrit pour lui. Hein, pas les pièces qu'il joue, puisqu'il lui-même a joué Tite et Bérénice sur son théâtre. Donc peut-être, seconde hypothèse, que cette pièce-là ne ressortit pas complètement à son répertoire et qu'il n'y avait pas d'urgence, en quelque sorte, à la reprendre. Et puis, aujourd'hui, pourquoi est-ce que cette pièce est si peu jouée? Alors ça, c'est sans doute en raison, effectivement, de son coût énorme, hein, puisqu'elle a été jouée, justement, le livre est tiré d'un colloque qui avait été donné à l'occasion de la recréation de la pièce en 2017. Mais c'est une pièce qui, je pense, ne correspond pas à ce que le public aujourd'hui attend de Molière aussi. Il est surpris peut-être de le voir s'aventurer sur des terres spectaculaires et galantes.
Portons sans bruit nos pas et ne réveillons pas sa rigueur
Michel Verchev, Gilles Ragon, Michel Lapleigny, les musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski, un extrait des Amants magnifiques de Jean-Baptiste Lully. Laura Naudex, là, cette scène de sommeil fait immanquablement penser à d'autres œuvres de Lully à venir. On pense notamment au sommeil Gatis. Est-ce que les Amants magnifiques, donc 1670, marquent une étape importante dans l'évolution de l'écriture, du style de Lully vers ce qu'on va appeler la tragédie en musique, vers l'opéra, le premier étant Cadmus et Hermione, trois ans après, en 1673.
Alors, Les Amants magnifiques fait partie de cet ensemble d'œuvres, effectivement, qui est dans cette période extraordinaire des années 1670, où on invente l'opéra en France. Et justement, c'est le sujet qu'essaye d'aborder Jean Durand dans son texte, le texte du volume, où il montre que Lully essaye d'organiser la temporalité musicale, c'est-à-dire que justement, il faut essayer de quitter les rivages d'une juxtaposition de petits morceaux de musique, hein, qui est encore ce que va pratiquer un compositeur comme Cambert pour Pomone, pour organiser de longues séquences de musique, de longues séquences cohérentes, où la musique s'organise avec des systèmes d'annonces et des systèmes de reprises, de répétitions, pour pouvoir constituer une temporalité musicale qui soit aussi une temporalité dramatique et pas simplement un petit collage de petits morceaux. Et c'est un travail très complexe et justement, c'est au fur et à mesure de cette conquête en fait d'une temporalité musico-dramatique que on va pouvoir progresser vers l'opéra. Donc c'est une des étapes, puisque très vite, hein, très tôt, d'emblée, en fait, la pièce a été, Les Amants magnifiques, le divertissement royal, a été salué comme étant une comédie contenant une petite comédie. C'est-à-dire qu'il y a une grande comédie, qui est la comédie du spectacle dans son ensemble, et une petite comédie, qui est cette pastorale qu'on vient d'entendre, qui agence une très grande diversité de discours de musique, et qui effectivement préfigure l'agencement qui sera plus tard celui d'un acte d'opéra, en réalité.
Les musiciens du Louvre, dirigés par Marc Minkowski, c'était l'entrée d'Apollon, extrait des Amants magnifiques de Lully Lauranodex, donc cette entrée d'Apollon que Louis XIV aurait dû danser. Il y a dans ces intermèdes des airs, on a compris, mais aussi des pantomimes. Alors, qu'est-ce que c'était ?
Alors, c'est justement ces fameux danseurs professionnels auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Effectivement, on voit débouler des danseurs professionnels qui sont désignés comme tels dans la pièce, qui ne sont pas des intermèdes offerts par les princes magnifiques à la princesse, mais qui sont des artistes qui viennent demander la protection de l'héroïne. Et on s'est beaucoup interrogé sur l'interprétation qu'on pouvait donner à cette survenue de danseurs qui sont dans la... En plus, on nous dit ils ont besoin de protection parce qu'ils sont nécessiteux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin de protection aussi matérielle. On a pu lire d'ailleurs dans cette présence une sorte d'éloge de la part de Molière des artistes, hein, le roi étant encouragé à protéger les arts. Mais on peut aussi faire une lecture plus d'actualité, puisqu'en 1661, la création de l'Académie royale de danse avait donné lieu à un conflit retentissant dont on a l'écho d'ailleurs encore dans le bourgeois gentilhomme. Et on peut penser qu'en fait, nos pantomimes, ce sont des maîtres à danser professionnels qui viennent faire acte en in vivo, en direct, de leur qualité de danseur.
Très bien, merci beaucoup Laura Naudet. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous venez de coordonner, Molière à la cour, les amants magnifiques en 1670. On apprend absolument plein de choses, même les échos dans la presse, comment l'œuvre a été reçue, un tas de témoignages, documents d'époque. Ça vient de paraître aux presses universitaires de Rennes. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Manon Houssin, attachée de production Annie Comier. La semaine prochaine, nous resterons en France, mais ferons un grand saut dans le temps puisque nous parlerons de Maurice Emmanuel avec Christophe Corbier. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.